وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers frères et sœurs, toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité de nous réunir après une nuit impaire. Et quelle nuit impaire, subhanallah. Après une nuit du 25e Ramadan pour l'île de la Réunion et une nuit de 27e pour Ardul Haramain al-Sharifain, Makkah wa al-Madina, c'est-à-dire une nuit extrêmement importante et probablement, Allah seul le sait, une nuit où il y avait de plus de probabilité que ce soit la nuit du destin. Qu'Allah Azza wa Jal accepte les efforts qu'on a pu accomplir, qu'Allah Rabbul Izzah accepte nos ibadas, nos du'as, nos demandes de pardon, qu'Allah accepte le intikaf de nos frères qui sont dans cette mosquée et qui ont voué ces 10 derniers jours à l'adoration d'Allah conformément à la pratique du prophète alayhi salatu wassalam durant toute sa vie. Ikhwani akhawati fillah, lorsqu'on est au 26e Ramadan, on doit être conscient qu'on a eu un parcours spirituel, mashallah, mashallah. Je n'utilise pas d'adjectif, je dis juste alhamdulillah. Ce qu'on a pu faire, chacun est au courant de ses actions, chacun est au courant de ses efforts. On ne compare pas une personne à une autre, un frère à une sœur, une mère à une fille, chacun son parcours, chacun son histoire, chacun ses contraintes dans la vie, ses engagements professionnels. Ce qui fait que les nuits de Muhammad ne sont pas comparables aux nuits de Abdallah ni aux nuits de Fatima en ibadah. Ceux qui peuvent tenir, mashallah, depuis 21h jusqu'à 4h du matin, alhamdulillah. Ceux qui ne peuvent pas le faire parce que sur le terrain, ils sont engagés, il y a d'autres impératifs, et qu'ils doivent donc dormir un peu le soir, puis se réveiller à 2h30, 3h du matin, alhamdulillah. Chacun a son nasib, chacun a sa part, a son quota, a son acceptation de la part d'Allah Azza wa Jal. Et la récompense, la rétribution, elle est auprès d'Allah. Et c'est ce qui nous rassure. S'il s'agissait d'une rétribution auprès d'un être humain, quelqu'un te dit que voilà, il faudrait rester 9 heures d'affilée pour obtenir ton salaire. Et que là, on a une personne qui ne pouvait pas le faire, qui était fatiguée, qui n'a pu rester que 2 heures, ben assurément, il s'attend à avoir un salaire diminué par 2 ou 3. C'est normal, c'est un calcul humain. Mais lorsque les actes d'adoration sont orientés, sont adressés à Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes, et Seigneur des mondes qui s'est qualifié comme étant Rahman Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, clément, miséricordieux, c'est-à-dire au-delà de tout ce qu'on peut imaginer en termes de bonté, en termes de gentillesse, en termes de bienveillance, en termes d'amour pour ses créatures, en termes, je reprends, de clémence, de miséricorde. Quand dans d'autres religions on dit Dieu est amour, nous on dit que Allah est Rahman Rahim. Et ces deux termes n'ont pas d'équivalent en français, il n'y a pas de traduction possible. On va traduire par clément, miséricordieux, ce sont les mots qu'on connaît le plus, mais ça ne traduit pas le sens profond de cet amour qu'Allah Azza wa Jal a pour l'ensemble de ses créatures. Lorsque nous étudions le tafsir d'Al-Fatiha, ou même le tafsir de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, nous apprenons qu'Allah est Rahman. Et Ar-Rahman, c'est une clémence qui englobe l'ensemble de l'humanité. Ceux qui ont iman, ceux qui ont la ilaha illallah, mais également ceux qui n'ont pas la ilaha illallah. Déjà, cette connaissance doit nous permettre de revoir nos relations au sein de la société. Si Allah de la clémence, de la miséricorde, pour celui qui ne croit pas en lui, nous devons avoir de la clémence et de la miséricorde pour des personnes qui ont d'autres confessions. Et le deuxième nom d'Allah qui est Ar-Rahim, c'est une clémence qui est spécifique aux croyants. Et ça, c'est l'espoir. On sait que le jour de Qiyama, Allah va avoir une telle pitié pour nous, Allah va tellement nous accorder comme récompense, il va nous donner des choses extraordinaires que le croyant, même s'il n'a pas pu faire comme son voisin ou son frère ou son professeur ou autre chose, il s'en remet à Allah Azza wa Jal. Mais ce qui est important, c'est que dans ce mois de Ramadan, chaque personne soit conscient qu'il ait donné le meilleur de lui-même. C'est ça le plus important. Et les actions ne valent que par leurs intentions. Fais en sorte que tu n'as pas laissé un moment de ta journée ou de ta nuit ou un laps de temps où tu aurais pu faire quelque chose, mais tu ne l'as pas fait. Fais en sorte qu'il n'y a pas eu un instant de rafla. Rafla, c'est l'insouciance. Fais en sorte qu'il n'y a pas eu un instant de ma'asiyah, de désobéissance envers Allah Azza wa Jal. Fais en sorte que dans tous tes choix, dans toutes tes décisions, ben mashallah, tu as recherché l'amour d'Allah et l'agrément de ton Seigneur. Non. Chaque croyant et chaque croyante à son niveau doit être persuadé que j'ai fait tout ce qui était possible pour moi, bi'idhnillah, et que je n'ai pas laissé un moment à al-rafla, l'insouciance, ni à la paresse, et je n'ai pas fait de mauvais choix. Si tu as avancé de cette façon durant le mois béni, avec ce qu'on appelle le muraqabatullah, la pensée permanente qu'Allah est avec toi, qu'Allah t'observe, qu'Allah te voit, ben assurément, on aura passé, inshallah, un Ramadan de la meilleure des façons. Dans cette dernière des quatre, mes chers frères et sœurs, on doit s'appliquer encore plus, on doit s'appliquer encore plus dans les actions du quotidien, mais avec cette fois-ci une pensée pour notre istiqama, notre après Ramadan. La première action qui doit être notre priorité, c'est de rester ferme dans nos cinq salats, bien sûr, jusqu'à la fin de ce mois, et se projeter vers l'après Ramadan. Comment faire pour que, inshallah, je reste ferme dans mes prières? Pour les messieurs, bien sûr, dans la masjid autant que possible, et pour les dames, comme elles le peuvent, à la maison. Et mes chers frères et sœurs, chaque bonne action qu'on accomplit, il est nécessaire de ressentir al-istislamu lillah, la soumission à Allah et le lien avec notre Seigneur. Parce qu'il y a une différence entre une personne qui prie de façon, j'allais presque dire, traditionnelle, mécanique, il prie parce que c'est une action qui est obligatoire, et la personne qui, mashallah, lorsqu'elle démarre sa salat, elle se met en condition de prière, prise de conscience que j'ai fait mes ablutions, j'ai mis des vêtements corrects, je me suis parfumé parce que je vais me présenter devant Allah. Et lorsque je vais dire Allahu Akbar, le lien avec mon Seigneur commence, je vais faire les louanges d'Allah, je vais lire Al-Fatiha, et à chaque verset de l'Al-Fatiha, Allah Azza wa Jal répond individuellement à chaque musulman, comme le stipule le hadith qui dit Al-Fatiha. Lorsqu'il sera dans le rukou', il va se rappeler qu'il est en train de faire les louanges de celui qui est le plus grand, Al-Azim, celui qui est majestueux, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la prise de conscience, ou alors la présence du cœur, ou alors le terme le plus global en arabe, c'est le khushu'. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. C'est de la dévotion. La dévotion, on peut rajouter à cette définition la présence de cœur, la concentration, une prise de conscience globale de l'action qu'on accomplit, et surtout prendre conscience qui nous sommes. Nous ne sommes que des êtres humains, des créatures remplies de péchés, avec des défauts, avec des manquements. Et nous avons devant nous, et ça c'est important aussi de l'intégrer, que quand je prie mon Seigneur, Rabbal Alami, le Seigneur des mondes. Je me présente devant lui. Et Allah Azza wa Jal voit le croyant qui se présente devant lui. Que tu sois dans la Masjid al-Haram à Mecca, le Masjid Nabawi à Al-Madina, ou que tu sois à Quwwat al-Islam à Saint-Clotilde, ça ne change strictement rien. Quand tu dis Allahu Akbar, j'allais presque dire, avec des termes modernes, que la connexion est établie. Tu as ton lien avec Allah Azza wa Jal. Et ça, je dois avoir la conviction, le yaqin, qu'Allah me voit, m'observe, m'entend quand je prie. Et notre prophète, alayhi salat wa salam, nous a apporté la révélation de son Seigneur Azza wa Jal dans le chapitre Ash-Shu'ara, dans le 19e juz, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ, et place ta confiance en Allah, celui qui est Al-Aziz, Al-Rahim, le clément, celui qui est puissant, celui à qui revient tous les honneurs. الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ, celui qui te voit, حِينَ تَقُومُ, lorsque tu es en position de qiyam. Et le qiyam, c'est la position debout dans la salat. En commentaire, les mufassirin, les savants disent, prise de conscience du croyant. Allah te révèle que lorsque tu es debout, Il te voit, il t'observe. Et lorsque tu te prosternes, et ensuite tu t'assois, ensuite tu retournes dans la deuxième prosternation, ce mouvement, Allah Rabbul Izzah te voit également. Car, innahu huwa as-sami'ul 'alim. Car Allah est celui qui est as-sami', celui qui entend tout. Al-'alim, celui qui connaît tout. Que ce soit ici, on a dit dans n'importe quel pays, subhanallah, même une personne, il est dans une maison, mashallah, il est isolé, il fait noir, il a éteint la lumière, il veut se concentrer pour son tahajjud, son qiyamul layl, subhanallah. Aucune différence entre sa salah et la salah de celui qui est sur le mataf, qui est près de la Kaaba en train de prier. Allah voit l'ensemble de ses créatures. Qu'est-ce que ce verset doit provoquer ou doit faire naître en nous en termes de prise de conscience? Parce que mes chers frères et sœurs, l'islam est une religion qui se pratique de façon intelligente, à la lumière des textes. Ce n'est pas juste une pratique qui découle des traditions. On a tous eu un enseignement à la madrasa, que ce soit un professeur, qu'on l'appelle moulissab, qu'on l'appelle mufti, qu'on l'appelle fundi, qu'on l'appelle cheikh, peu importe. Mu'allim, on a tous eu quelqu'un, mashallah, qui nous a transmis. Allah jazim khair. On a tous eu, mashallah, des parents aussi qui nous ont transmis ce que eux-mêmes ils ont eu comme acquis. Allah jazim khair. Wa yatil hayatuhum fi ta'a. Mais la religion ne se base pas uniquement sur la transmission de valeurs de personne à personne. Le croyant, à un moment donné, et ça c'est très important, si c'est un message qu'on doit retenir dans la première partie de l'intervention, c'est celle-là. Le mu'min, c'est un devoir pour chaque croyant de faire le lien entre sa pratique religieuse qu'il a appris, parce qu'il faut bien que quelqu'un qui te l'a enseigné pour commencer à prier, ainsi de suite, entre ta pratique qui est acquise et que tu accomplis au quotidien, et la source de cette pratique qui remonte au Coran. Ainsi donc, concernant la prière, il est du devoir du croyant de faire sa recherche, un travail personnel auprès des savants. Si on a des ulama qui sont disponibles, si on est dans un endroit où il n'y a pas de alim, où ils ne sont pas trop disponibles, avec les livres de tafsir, ce qu'il y a, qu'on peut comprendre bien sûr, essayer d'approfondir nos connaissances concernant les actions qu'on accomplit. Et quand je dis nos connaissances, ce n'est pas uniquement lié à les vertus. Nous, on se limite à les vertus de la prière, c'est telle récompense, telle récompense. Ça, bien sûr, ça c'est les récompenses. Mais les qualités que nous devons réunir, les qualités du cœur, pour que l'action décolle, pour que l'action, subhanallah, ait réellement un impact spirituel, pour que l'action produise ce qu'on appelle halawatul iman. Qui a déjà entendu parler de ce terme, halawatul iman? Celui qui connaît me le traduit. Halawatul iman, ça veut dire la douceur de la foi. Et comme je disais dans l'introduction, on a une personne qui prie, tac tac, en 2 minutes, 3 minutes, il s'en va. On a quelqu'un qui peut faire ses 20 rakats de tarawih aussi. Quelqu'un qui connaît le Coran par cœur, mashallah, et qui lit très bien, et qui lit à grande vitesse, et il complète un juz, ainsi par an, une soirée. Et il est très fier de lui, il a fait aucune faute, il a lu d'une façon majestueuse, il a fait une imitation de Mu'aqili, de Shurem, et tout le monde dit « Ah, mashallah, ça c'est un bon imam. » Très bien. Mais miskin, alf miskin, il n'a pas pris conscience une seule fois de ce qu'il faisait, devant qui il est lui-même. Tu te crois pour qui là? Tu te présentes sur Moussala avec le torse bombé, avec tes beaux vêtements, en pensant que à moi-même il contrôle, c'est moi l'imam, c'est moi qui connais le Coran par cœur, et voilà, tu vas avoir une voix magnifique. Bien, la voix elle est bonne, ça fait partie des qualités de la prière, mais tu oublies ce que tu as fait ce matin, tu oublies tes péchés des dernières semaines, des derniers mois, des dernières années. On croit qu'on peut se présenter devant Allah la tête haute. On croit qu'on peut se présenter devant Allah en passant d'un état à un autre. Je vérifie mes notifications Facebook, je suis avec mes amis en ligne, tout d'un coup, allez, on fait damas, on prie, on commence comme ça. Ça, c'est un manque de respect envers Allah Azza wa Jal. Ça, c'est un manque de considération envers la qualité de la salah, la préparation spirituelle de la prière. Quand un croyant se présente devant, allez, je reformule, quand un croyant va prier, il doit réaliser qu'il se présente devant Allah. Voilà la première étape. C'est pas on commande Allah Akbar et j'accomplis mon obligation. Non, réalise que tu te présentes devant Allah. Et quand tu te, il y avait une anecdote de Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Ça en fait des générations. C'est le petit-fils de Ali, quatrième calife. C'est le fils de Hussein, c'est-à-dire le petit-fils du prophète sallam. C'est-à-dire que là, on parle de l'arrière-petit-fils du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il faisait ses ablutions, après avoir fait ses ablutions, il tremblait. Et les gens lui demandaient, mais il y a Ali, qu'est-ce qui fait que tu trembles? Il y a quoi? Mais c'est pas trembler de fièvre ou autre chose, C'est comme quelqu'un qui a peur, qui est angoissé. Il dit que oui, mais quand j'accomplis mes ablutions, quand je termine, je réalise annani aqumu amama rabbil alamin. Je vais me présenter devant le Seigneur des mondes. Il est normal que mon cœur frémisse et que mon cœur soit rempli de crainte, de honte. Voilà le terme que je voulais, al-haya. Ainsi donc, quand je démarre ma prière, je ne peux pas me présenter sans qu'il y ait une préparation psychologique et spirituelle. Ce imam ou ce jeune ou moi-même, je fais ma prière même seul chez moi, je démarre comme ça sans... J'oublie qui je suis, j'oublie mes erreurs. Ainsi donc, quand je me présente devant Allah, je dois me rappeler que j'ai commis beaucoup d'erreurs. Mais le fait qu'Allah me ramène devant lui, c'est ihsanun min Allah, c'est une faveur de la part d'Allah. Voyez, si on essaie de ramener un peu toutes ces pensées qui sont pures, ça crée en nous un état d'esprit. Et tu réalises que tu n'es qu'un abid, que tu n'es qu'un adorateur. Tu es khalqun min khalqik. Tu es une créature parmi les créatures d'Allah. Tu dépends de ton Seigneur. Et cette créature-là, elle a un cœur sale. Elle est remplie de défauts. On a plein de manquements de notre vie. Mais Allah nous ramène devant lui et on est reconnaissant. Et on fait preuve d'humilité. On baisse la tête. On ressent dans notre cœur qu'on a envie de se rattraper auprès d'Allah. Qu'Allah m'accepte, qu'Allah soit satisfait de moi et qu'Allah ait pitié. Il ne regarde pas mes erreurs, mais il regarde l'effort que je fais pour être présent devant lui lors de la prière de l'initiation. Tout ça, c'est Ikhwan et Ikhwat, les conditions qu'on doit essayer. Ce n'est pas le but de l'intervention, mais ça fait partie des conditions psychologiques et spirituelles, les deux marchent ensemble, que je dois essayer de réunir pour trouver la concentration dans ma salat. Comme on a dit en introduction, il y a une différence entre celui qui se présente devant, qui commence sa prière sans comprendre tout ça. Je me présente devant qui? Qui suis-je? Quels sont mes manquements? Quelle faveur Allah m'accorde? Devant qui je me prosterne, ainsi de suite? Et celui qui essaie de réfléchir à tout ça et qui, mashallah, quand il commence à prier, ben, assurément, il y aura une connexion avec Allah Azza wa Jal. Ainsi, Ikhwan ya Khawati fillah, restons fermes de nos cinq salats, là, jusqu'à la fin du Ramadan. Je pense que dans cette assemblée et de façon générale, chaque croyant a fait une priorité de ces cinq salats, je pense. Tout le monde, chaque croyant, a donné une importance capitale à l'accomplissement de ces cinq prières. Personne ne rate une salat durant le mois de Ramadan. Et ça, ça fait partie de la hidayah, de la guidée qu'Allah fait descendre dans les cœurs durant ce mois béni. Mais le progrès qu'on peut faire, c'est essayer justement d'améliorer la qualité de cette salat en se rappelant un peu de ce qu'on a dit et du verset que place ta confiance en Allah, celui qui te voit quand tu te mets en position debout, qui t'observe quand tu es en prosternation, ainsi de suite, et qu'Allah il sait ce que tu lis, même tu lis à voix basse, Allah Rabbul Izzah l'entend. Donc quand tu le lis, applique-toi. Mais n'aie aucune gêne si tu ne sais pas bien lire le Coran, ce n'est pas là un problème. Si ton tajwid n'est pas correct, si tu as appris à la madrasa, mais un peu, tu t'es un peu souvent absent et il y a des fautes, ça c'est pas un souci. Allah ne va pas regarder si tu lis bien le ayn de la gorge, le kha, le dhal, la langue entre les dents, le zay. Non, c'est pas ça le plus important. Allah regarde le cœur qui est pur, qui est sincère, qui est soumis à lui. D'ailleurs, le prophète n'a-t-il pas dit que celui qui lit le Coran avec difficulté, Allah lui accorde double récompense. On voit bien que nous sommes tellement attardés, on s'est tellement focalisé sur la forme, qu'on finit par oublier le fond. Le plus important, c'est la présence du cœur et la recherche de l'agrément de notre Seigneur. Ça, c'est la première action. Et donc, se projeter maintenant sur l'après-Ramadan et demander à Allah son aide. « Ya Allah, accorde-moi l'istiqam, la fermeté. » Pour qu'après le mois béni, Ya Rab, accepte-moi pour que je continue à prier 5 fois par jour au minimum. Et nous ne pourrons jamais nous rapprocher d'Allah sans l'invitation d'Allah. Sans, il y a un terme qui est plus précis, le tawfiq min Allah. C'est Allah qui t'accepte. C'est Allah qui te tire. Allah waliyu alladhina amanu yukhrijuhum minan dhulumati ila an-nur. Allah enlève des gens de l'obscurité et les ramène vers la lumière. Donc on a besoin de l'aide d'Allah, et les meilleurs moments pour demander à Allah son aide, c'est justement les quelques ruptures du jeûne qui nous restent. Vous savez qu'au moment de rompre le jeûne, les invocations sont acceptées. Et donc profitons de ces quelques moments qui nous restent, et quelques saumes, quand je vais, comme on dit, casser mon carême, je veux rompre mon jeûne, fais doua. C'est bien qu'on fasse doua pour nous, pour la santé, pour la protection. On demande à Allah, protège-moi contre le Covid. C'est normal, tout le monde le dit. Protège-moi contre le variant sud-africain, contre le variant brésilien, contre le variant anglais, contre le variant indien. Et là, on peut citer toute une nation, hein, ça va aller dans tous les sens. Il est normal de demander la protection, la santé, le bien-être, la réussite, la stabilité, tout ça c'est bien. Mais n'oublions pas, Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. Demandez pour le dunya et le akhira. Et quel est le lien entre le dunya et le akhira? Le lien le plus fort, c'est nos prières. Donc, c'est le moment où on demande à Allah de nous accepter pour prier régulièrement, pour devenir un musalli, quelqu'un qui prie correctement, avec les qualités qu'Allah aime et qui sont citées dans le 18e juz. Alors, je vous donne juste des pistes, parce qu'en 60 minutes, on ne peut pas faire le tour de la connaissance, hein, et on n'a pas ces compétences non plus. Mais si vous avez la possibilité, je prêche, je suis en train de prêcher dans toutes les mosquées, et je vérifie les étagères s'il n'y en a pas. Il y a des ouvrages de tafsir qui ont été traduits en français, et ce sont de bonnes traductions. Que je les ai chez moi, j'ai lu, j'ai vérifié, ce sont des traductions qui sont très bien faites. Et l'ouvrage en lui-même, subhanallah, c'est un bijou. Ce tafsir, ça s'appelle Taysirul Karim al-Rahman. Alors, ça c'est le titre en arabe. C'est connu comme le tafsir de As-Sa'di, S-A-A-D-I, As-Sa'di, qui est un savant, on va dire, contemporain, et qui a écrit donc cet ouvrage, le tafsir, qui est un tafsir accessible à, c'est pas péjoratif, hein, à tout public. Il n'y a pas besoin d'être un fundi pour le comprendre. C'est un tafsir, mais un peu comme Jalalain ou tafsir al-Muyassar, c'est des tafsirs qui sont simples et accessibles. Ben, lisez la première page du 18e juz, le 18e sifara, Qad aflaha al-mu'minun, et là vous lirez, vous allez découvrir le tafsir de la dévotion dans la salah, et c'est là que ça devient intéressant. Et c'est là que cette connaissance, ça ne doit pas être une connaissance qui est générale, ou que, voilà, non, ça doit être une connaissance ciblée, que j'apprends à accomplir ma salah correctement. J'apprends à développer les qualités de la salah. Hada. Deuxième action sur laquelle nous devons rester fermes, et ça on va combiner avec la première, Qiyamul Layl. Qiyamul Layl c'est quoi? Le tahajjud. Le rendez-vous des... Ouais, quelqu'un a quelque chose à proposer? Le rendez-vous des pieux. Le rendez-vous des élus, des acceptés. Trouvez les termes les plus élogieux. Je vous laisse compléter mes phrases aujourd'hui. Le rendez-vous de ceux... C'est bon, on va se calmer. On a déjà eu 3, si tu veux. Hein. Tu veux finir le programme? Le rendez-vous de ceux qui ont été agréés, acceptés par Allah Azza wa Jal. Ikhwani akhawati fillah, se réveiller à 3h30, 4h, peu importe, avant le subh al-sadiq, et prier Allah Rabbul Izzah, c'est un cadeau divin. C'est un cadeau divin. J'allais vous dire, ça c'est du caviar ça. Ou alors utilisez les termes que vous voulez. Il n'y a pas plus grand maqam, il n'y a pas plus grand honneur qu'Allah puisse accorder à un serviteur que de le réveiller dans la nuit pour le mettre debout devant lui. Et j'allais vous développer les qualités de la prière, mais on a pris pas mal de temps avec ce premier point. Du coup, on passe à une autre thématique, mais permettez-moi juste de vous dire que lorsque le prophète alayhi salat wa salam était dans les situations les plus difficiles à Makkatul Mukarrama, on connaît que les premières années à Makka étaient très compliquées, notre prophète alayhi salat wa salam reçoit de la part d'Allah Azza wa Jal la sourate Al-Muzzammil ainsi que la sourate Al qui vient ensemble, Muddathir, barakallah fik. Et on ne va pas faire le commentaire, bien sûr, de Al-Muzzammil, mais la sourate Al-Muzzammil, au début, parle du Qiyamul Layya, Yuhal Al-Muzzammil, Qumil Layla illa Qalila, Nisfa, wa Inqus minhu Qalila, ila akhir al-ayat. On a un premier tiers de Al-Muzzammil qui concerne exclusivement le Qiyamul Layla. Les savants disent que notre prophète, alayhi salat wa salam, traverse une période extrêmement difficile, avec des difficultés des Quraysh, avec des Sahaba qui se font torturer. C'est les périodes où on a Bilal ibn Rabah radiallahu anhu qui subit, on connaît qu'est-ce qu'il a subi comme difficulté. On a Soumaya radiallahu anha qui a été mise à mort. On a la famille de Al Yasir qui ont été exécutés du père jusqu'au fils. Et le prophète alayhi salat wa salam passait dans cet endroit où ils étaient attachés et ils voyaient leur souffrance et ils ne pouvaient rien faire. Il leur disait juste sabran ya ali yasir fa inna maw'idakum al-jannah. Soyez patients, ô famille de Yasir, votre promesse c'est le Jannah. Soyez patients et endurants, c'est un sacrifice mais Allah vous accordera le Jannah. Dans ces moments difficiles, qu'est-ce qu'Allah demande à notre Habib alayhi salatu wassalam, ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila qiyam al-layl, le namaz, la salat de tahajjud. C'est-à-dire que le croyant dans la prière de la nuit, il a la possibilité de se retrouver aussi proche d'Allah qu'il peut exposer à son Seigneur l'ensemble de ses problèmes. Quel que soit le problème de ta vie, que ce soit un problème relationnel, c'est-à-dire au niveau du couple, que ce soit un problème financier, que ce soit un problème de santé, et Allah nous protège des problèmes et accorde son aide à toutes les personnes opprimées. Personne ne vivra dans sa vie autant de difficultés et d'épreuves cumulées comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le remède, la solution qui a été révélée par Allah pour l'ensemble de ces problèmes, c'était qu'il layla illa qalila, la prière de la nuit. Donc, ikhwani akhawati fillah, je pense et j'ai husnudhan sur l'ensemble des croyants qui sont présents et croyants qui sont présents et présents dans cette assemblée que tout le monde dans le mois de Ramadan prie le tahajjud. Ne serait-ce qu'on fait deux rakats avant de passer à table. C'était les derniers conseils que je donnais aux élèves, aux grands, avant les vacances du mois de mai, d'accord ? Avant ces vacances-là, j'ai dit que j'ai sondé les élèves, des grands, des collégiens, lycéens, qui fait Qiyamul Layl, qui fait Tahajjud. Il n'y en avait que deux ou trois. Je dis, mes enfants, si vous vous réveillez à, par exemple, 4h30 pour apprendre votre souhour, demandez à vos parents de vous réveiller 10 minutes plus tôt. Tu fais des ablutions, tu fais deux rakats. Je ne peux pas demander de faire 12, deux rakats. 15 secondes de doua. Demande à Allah ce qui est important pour toi. C'est toi qui connais de ton cœur qu'est-ce qui est important. Et ensuite, tu prends ton souhour, tu manges ce que tu veux. C'était le dernier conseil qu'on a donné. Donc, on essaie, ikhwan et khawati fillah, on a tous fait, les adultes ont fait, je pense, Qiyamul Layl. Maintenant, il faut demander à Allah Rabbul Izzah istiqama, la fermeté dans cette action. Parce que, vous savez, malheureusement, on reproduit un schéma qui est souvent le même tous les ans. C'est quoi ce schéma? Le Ramadan arrive, je monte en intensité de mes bonnes œuvres. J'atteins le summum, le paroxysme de la dernière des quatre. Je me donne à fond. Là, c'est le tahajjud de 2h30 du matin jusqu'à 4h. C'est tilawat al-Qur'an, c'est un khatm al-Qur'an tous les 3 jours. C'est waouh, resplendissant, c'est magnifique. On est, yani, al-an, à cet instant, il y a une lumière qui brille en nous. C'est waouh, c'est juste impressionnant. S'il existait un scanner ou un IRM spirituel pour avoir la quantité de lumière, de nour, l'iman, de douceur, de halawat, l'iman qu'il y a dans le cœur de chacun, on serait très fiers. Et on aurait souhaité une seule chose, c'est que si c'était possible de mourir dans cet état-là. Parce qu'on sait comment ça va, je dis ça, je ne suis pas pessimiste, mais comment ça risque de dégringoler progressivement après le mois béni. Là, on est au sommet de notre iman. Il n'y a pas une période de l'année où notre iman atteint un tel degré. Et pour ça, on remercie Allah. Vaut mieux ça que rien du tout, que le calme plat. Mais ce pic de la foi, bonne nouvelle à ceux qui quittent ce monde au sommet de leurs efforts. Mais ce qui se passe très souvent, c'est qu'après les sommets du 28e, 29e Ramadan, quand on voit la lune de Shawwal, de Eid, le lendemain, Allah musta'an, ça chute. Vous pensez que ça chute tout seul, automatiquement? Non. C'est que dans ta tête, ou alors je vais plutôt dire dans ton cœur, à un moment donné, tu te dis que maintenant, j'arrête de faire Qiyamul Layl. Le fait qu'on arrête de faire la prière de la nuit tous les ans, après le Ramadan, c'est bien que la décision vient de moi. Ce n'est pas un accident, un jour ça peut arriver, mais c'est bien que dans mon inconscient, et puis dans la réalité, quand je règle mon alarme avant de dormir, je ne règle plus pour 3:45 ou 4, je règle pour 10 minutes avant Fajr. C'est bien que j'ai décidé d'arrêter. Mais ikhwan et akhwati fillah, il faut que cette année les choses changent. Je ne peux pas me permettre de continuer à évoluer comme ça, avec un pic de piété, et puis on disparaît, on est absent 11 mois, et puis je reviens. Il ne faut pas oublier que je dois rencontrer mon Seigneur. Je dois retourner vers Allah. Et il n'a pas été dit que je vais mourir à 92, 96, non. Allah seul le sait. La mort n'a jamais été aussi proche de nous, avec cette épidémie et d'autres raisons. Hier, on a fait une assemblée avec un jeune, une assemblée avec des jeunes, des trentenaires, c'était plus un siècle de discussion qu'autre chose. On échange, on fait des confidences, chacun explique comment il fait ses prières. C'est-à-dire que, voilà, je dis que sans ostentation, mais dites-moi de quoi vous êtes capable de faire et je vous dis s'il y a des trucs à améliorer. Et il y a un jeune c'est pas des jeunes, ils ont 30 ans, ils sont mariés avec des enfants. Il y en a un dedans qui, je sais qu'il s'était fait vacciner très tôt contre le Covid. Alors qu'il n'avait pas théoriquement accès. Mais bon, encore des fils en aiguille, il avait des relations. Et il s'est fait vacciner, donc il était plus ou moins confiant. Il lui est arrivé un accident de vélo. Il était à l'hôpital pendant pas mal de jours. C'est là qu'on se rend compte que des fois, tu prends des précautions pour quelque chose. Celui qui a déjà eu sa deuxième dose, on parle de vaccin, pas d'autre chose, hein. Celui qui a eu sa deuxième dose de Pfizer, son pied touche plus à terre. Et le masque n'a plus besoin. On fait tomber le masque. C'est bon. On est persuadé que maintenant on est intouchable. Mais tu t'es protégé contre cette maladie. Tu tombes de vélo. Il peut t'arriver n'importe quel problème à n'importe quel instant. C'est-à-dire, les choses ne sont pas de nos mains. C'est pas moi qui prends des précautions. J'ai pas le contrôle sur ma vie. Que le nafsin da'iqatul maut. Chacun goûtera à la mort et Allah seul sait comment on goûtera à la mort. Donc, ikhwan et akhwati fillah, n'oublions pas que le lien du croyant avec Allah, ça se construit dans le dernier tiers de la nuit. Le Qiyamul Layl, c'est ma lumière dans ce dunya et ma lumière dans le Akhirah et dans ma tombe également, bien sûr. Troisième action que je dois continuer à accomplir avec assiduité jusqu'à la fin de ce mois béni, c'est bien sûr le Sawm. Ça, c'est la base. Je continue à jeûner. Mais comme les savants disent, il y a Sawm et il y a Tahsin al-Sawm. Il y a le jeûne. Et puis il y a celui qui va essayer de parfaire son jeûne. On a tous déjà entendu des discours là-dessus, c'est pas maintenant qu'on va vous apprendre ça, tout le monde le connaît. Le vrai jeûneur, celui qui jeûne avec ses yeux, avec ses oreilles, avec sa bouche, avec son cœur, tout ça c'est très connu. Mais moi j'irai vers une autre définition qui, je pense, est beaucoup plus parlante. Quand on commence le jeûne le matin, quel est le doua que nous lisons ? Issa, un jeune homme, classe 5. C'est quoi le doua quand on commence le jeûne? En plus, ton papa est là, ça va être chaud pour toi, là, si tu connais pas. Allahumma inni asumu radan lak farfili ma qaddam tu ma akhart. Avec différentes variantes, pas comme le Covid, différentes variantes dans les formules de doua. Quand je dis Allahumma inni asumu, c'est un engagement, ahd ma Allah. Tu promets à Allah, Allahumma, ça veut dire quoi? Oh Allah. Inni asumu, je m'engage à jeûner. Radan laka, c'est-à-dire aujourd'hui. Radan, c'est le lendemain, c'est-à-dire parce que du subah sadiq, bref. Je m'engage à jeûner laka, pour toi. Farfir li ma qaddamt wa ma akhart. Pardonne mes péchés présents et mes péchés passés. Tous mes péchés. Alors, on ne va pas développer la notion de pardon, ce qu'on attend de la part d'Allah, mais ce qui m'intéresse, c'est que quand je démarre le jeûne, je fais une promesse à Allah. Allahumma inni asumu. Oh Allah, je m'engage à jeûner. Et tout croyant qui lit ce doua, il respecte son engagement. Ça, c'est clair. Même les enfants. Les enfants, quand ils font leur premier jeûne, mais pour eux, c'est une mission. On a tous connu cet état quand on était jeune. Quand on fait notre premier carême, pour nous, c'est le carême, c'est sinapou mort à mort. On va évanouir, on va déshydrater, mais ils gardent le carême, ils ne cassent pas. Quand on dit non, bois un petit peu d'eau, refais le corps, bois un petit peu, mange des affaires sucrées. Non, 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 non. J'ai fait l'intention, je fais mon premier somme jusqu'au soir et je tiens, comme dit encore, il tient beau. Ça, c'est une fierté, ça, pour un enfant d'avoir pu faire son premier jeûne. Mais les savants disent que voilà le ahd ma'Allah, l'engagement que tu respectes la demande de ton Seigneur du matin jusqu'au soir. Mais n'oublie pas, ô croyant, qu'à travers cette journée d'obéissance, de promesse d'obéissance, tu as également un engagement de toute ta vie. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِي يَعْبُدُونَ. Allah nous a créés uniquement pour son adoration. Et Allah nous a demandé وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Le sens du verset, adore ton Seigneur jusqu'à ce que, le sens du verset, jusqu'à la mort arrive et que Allah reprend ton âme par l'ange de la mort. Ça, c'est l'engagement du croyant avec Allah. Donc quand tu jeûnes, bien sûr, jeûne avec ton estomac, avec tes yeux, tout ça, c'est intégré ça. Mais n'oublie pas que tu as un engagement avec ton Seigneur. Comme tu tiens cet engagement avec fermeté, respecte l'engagement de toute ta vie. Donne ta vie à Allah. N'oublie pas que tu es mamelouk, tu appartiens à Allah, que tu es l'adorateur d'Allah, tu es le serviteur d'Allah, et qu'Allah est ton Seigneur. D'ailleurs, c'est toi qui le dis quand tu pries Alhamdulillahi Rabb. Le Rabb, c'est le Seigneur, le pourvoyeur, celui qui te donne la vie, celui qui te donne la santé, qui te protège, qui te fait avancer et qui veille sur toi. C'est le sens de Rabb sur Ibn Kathir et la majorité des Mufassirin. Donc, quand tu jeûnes, réalise que tu renouvelles la promesse de ta vie avec ton Seigneur. C'est-à-dire, il faut monter de degré dans nos actions. C'est-à-dire qu'on dit tout à l'heure que la religion se vit de façon intelligente et à la lumière de la connaissance religieuse. Ce n'est pas juste la tradition qu'on a eue chez les pros. Le Nomolissab, le Fundi, bien, on les fait, mais essaie de peaufiner ça. Essaie de donner de l'éclat. Tu ne peux pas avoir le même niveau de pratique à 9 ans et à 60 ans, c'est pas possible. Entre les deux, il faut que tu aies fait des progrès, et c'est l'étude des versets du Coran et des textes prophétiques qui te permettront de donner de l'ampleur et de la densité à tes bonnes œuvres. On continue. Et le niyat de istiqama, ce sera quoi cette fois-ci? Tu fais bien jusqu'au 29e ou 30e et fais l'intention dès maintenant et demande à Allah son aide, qu'il te choisisse pour être parmi, alors ça c'est une catégorie de personnes qui sont, mashallah, sélectionnées, ceux qui font le jeûne régulièrement le lundi et le jeudi, toute l'année. Deux jours, le prophète alayhi salat wa salam jeûnait. Pourquoi il jeûnait ces jours-là? Parce que c'était les jours où les actions étaient présentées devant Allah. Et là aussi, il y a la pratique traditionnelle, mécanique. Si on atteint ce niveau de foi, on jeûne le lundi, le jeudi, c'est vraiment, vous êtes bon, hein. Donc déjà, c'est pas mal. Mais il y a celui qui va jeûner le lundi, le jeudi, comme ça. Parce qu'il a appris, ou un peu mieux, parce que c'est une sunna. Ah, là, il ressent l'amour pour le prophète. Donc là, déjà, on passe à un degré supérieur. On a rajouté une plus-value, là, une plus-value spirituelle. Je suis mon Habib, alayhi salatu wassalam. Ça, c'est déjà beaucoup mieux. Il y a un peu plus de prise de conscience. Mais le summum du niya, de l'intention, c'est quand tu adoptes l'intention du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il jeûnait parce que c'est les jours où les actions sont présentées devant Allah. Et là, de ton cœur, tu trembles. Tu dis, ya Allah, aujourd'hui c'est jeudi. Qu'est-ce que j'ai pu faire mardi, mercredi? Et c'est aujourd'hui que mes actions sont présentées devant Allah. J'ai l'espoir qu'Allah ait pitié de moi, qu'Allah pardonne. Ça, c'est la vie du croyant. Allahu Akbar. Qu'Allah nous accorde ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le muraqabatullah, la pensée permanente d'Allah. C'est quelqu'un qui vit dans la taqwa. C'est-à-dire que la pensée d'Allah doit habiter ton cœur H24. Toute ta vie, tu dois penser à Allah. Ça ne veut pas dire pour autant que tu n'as pas une vie d'être humain ordinaire, que tu n'as pas une vie de couple, une vie de père, de famille, que tu ne peux pas être professeur, artisan, plombier, agriculteur ou avocat, peu importe la mission sur la terre. Tu fais tout ça. Au contraire, fais-le, sois utile aux gens. Mais n'oublie jamais ton engagement avec Allah. Dans tout ce que tu fais, le croyant garde le cœur avec Allah. C'est pas non plus, j'essaie de déconstruire un peu ces schémas, c'est pas quelqu'un qui a toujours un sabah, un tasbih dans sa poche et qui de temps en temps le tire et qui donne le bus dans ses talis, il fait son zikar et tout. Ça aussi c'est bien, mais c'est pas que ça. C'est une prise de conscience, c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit, ça se voit où ? Ça se voit où justement tu donnes le bus italien, tu descends, ou alors non, tu es bien assis, et la porte s'ouvre et il y a une créature d'Allah qui rentre. Une créature qui est, un moyen de dire, qui a toutes les qualités. D'accord ? Une belle créature d'Allah. Et là, ce n'est pas une question que tu aies ton tasbih dans la main ou non, le dhikr, c'est quelque chose, mais que tu penses à ton Seigneur, tu as envie de regarder, tu as envie peut-être de parler, enfin je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Le cœur, c'est le inna nafs la ammaratum bis. Bissou ou bil khair, bissou, le nafs, il t'amène toujours vers le mal. C'est comme ça, on est créé comme ça. Quelqu'un veut me dire que l'ina pas masti? Impossible. Quelqu'un veut me dire que non, moi, j'ai une âme qui est pure. Je ne pense à rien, elle m'a sorte là. Arrête. Fais pas genre. C'est pas possible. Nous avons été créés comme ça. Inna nafs la ammaratum bissou. C'est dans la nature humaine. Sauf que le muttaqi, la taqwa, le jeûne était prescrit pour qu'on atteigne la piété. La'allakum tattaqoun, c'est quand tu arrives à maîtriser le côté bestial, le côté shahawat, pulsion, pour ramener tout vers ta'atullah, l'obéissance d'Allah et le regard d'Allah sur toi. Waouh, subhanallah. Ça, c'est la taqwa. Ça, c'est ce qu'on appelle la pensée permanente d'Allah. Tu es exposé à un péché, ça ne t'effleure même pas. Parce que ton cœur est avec Allah. Même si à l'instant T, tu n'es pas en train de faire le dhikr Allah, mais ton cœur est avec Allah. C'est quand la taqwa s'est installée dans le cœur, et c'est un des objectifs justement du somme, du jeûne, comme a kutiba ala alladhina min qablikum, qui a été prescrit à ceux d'avant vous, la'allakum tattaqoun, afin que vous puissiez atteindre la piété qu'Allah nous accorde, cet état d'esprit. Hada. Donc voilà, c'est tout ça qu'on doit essayer de développer quand on jeûne et on demande à Allah de nous aider pour jeûner le lundi, le jeudi et comme on a dit, avec cette pensée que voilà, nos actions sont présentées devant Allah. Également, jeûner le 13, 14 et le 15 de chaque mois, tout ça, ça fait partie de belles actions. Et le Prophète m'a promis qu'il y a une porte de le paradis pour les jeûneurs qui s'appellent Ar-Rayyan, qu'Allah nous accorde cette porte du Jannah, mais il faut faire les efforts sur terre et il faut faire les efforts de façon intelligente et construite. Je répète encore une fois, avec prise de conscience, avec connaissance et en puisant la lumière du Coran et de la Sunna pour être sûr que j'accomplis l'action comme le Prophète le faisait et avec l'intention du Prophète. C'est là que je vais trouver la véritable lumière dans la bonne action. Ça fait trois actions. On continue, il y a 5 ou 6 qu'on doit citer, il y en a même 7. Quatrième action qu'on doit continuer à faire là jusqu'au 30e et rester ferme sur ces actions, c'est les du'as. Ad-du'as. Et donne-moi béni. Quels sont les deux moments les plus importants pour demander du'as ? Qui nous dit ? Hein, le frère ? Faut pas commencer à dormir. Hein, salatu khayrun minan nawm. Alhamdulillah alladhi ahyana wa 'ala ma matana wa ilayhi an-nushur. Quels sont les deux moments les plus importants pour demander du'as à Allah dans le mois de Ramadan ? Oui, et au moment de rompre le jeûne. Tahajjud, ça correspond au dernier tiers de la nuit. Le moment où Allah descend au premier ciel. Kama yaliqu bihi azza wa jal. Ça, c'est toujours le terme qu'on doit citer. Comme cela appartient à Allah. On n'a pas demandé comment ça se fait. C'est pas ton problème, ça. Allah te l'annonce. Amanna wa saddaqna. C'est mon Seigneur, ce qu'il me dit, c'est la vérité. Je comprends, alhamdoulilah. Je comprends pas, c'est pas grave. Ou comme c'est-à-dire, je comprends pas, c'est pas grave. C'est pas le plus important. Al-amaloubi. Et au moment de rompre le jeûne, parce qu'au moment de rompre le jeûne, ça me dit qu'on a tous une invocation qui est exaucée, qui est acceptée par Allah Azza wa Jalla. Donc, le du'a, il faut le faire, mais là aussi, en fait, vous allez vous dire que oui, mais chaque action qu'on accomplit, il est en train de déconstruire, de dire qu'on est mauvais. Non, c'est pas ça. Je veux dire que l'action, on l'a. Tout le monde l'a. Tout le monde fait doigt. Mais la plus-value. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Pas la quantité. C'est pas que je dis combien de temps on doit faire, ou 10 minutes. Non, fais 20 minutes. C'est pas ça le but. Allah n'attend pas de nous la quantité. Allah attend de nous la qualité. La présence de cœur. Que quand tu fais doigt, tu réalises ce que le prophète alayhi salat wa salam nous a révélé de la part d'Allah Rabbul Izzah, wa qad rabbukum ud'uni astajib lakum, et votre Seigneur dit appelez-moi, je vous répondrai. On va pas entrer dans le tafsir, il nous reste 5 minutes sur le papier. Quand le mu'min invoque Allah, Allah fait la promesse, astajib lakum, je vous répondrai. Allah, il te promet qu'il t'écoute. Lorsque le prophète nous révèle, nous apporte cette révélation de l'Baqara, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٍ, qui complète إِذَا دَعَانِ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّعِ إِذَا دَعَانِ, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Ce sont des versets qu'on connaît, ça. On entend dans les programmes, dans les bayans, dans les ta'lim, on entend. Mais combien de lumière j'ai puisé de ces versets? Et combien de lumière j'ai pris et j'ai mis dans ma bonne action? Là, on aura celui qui fait doigt, il lit, il récite tous les doigts qu'il a appris quand il était petit. Peut-être même des doigts qui sont pas, n'a pas sa place. Tu ne fais doigt, kaskam, tu dis Allahumma bismika mutawahiya, ya abnannas. C'est pas le moment. T'as rien mangé. C'est-à-dire qu'il y a le doigt qu'on lit, tout ce qu'on connaît. Sans compréhension, c'est pas ce qu'il faut. Le doigt que le mu'min doit demander, c'est un cœur qui s'ouvre à Allah Azza wa Jal. Le croyant doit avoir cette prise de conscience, même si je ne connais pas des doigts en arabe par cœur, c'est pas ça le plus important. C'est l'échange et la conversation avec Allah. Le fait que quand tu fais doua, tu as cette conviction qu'Allah t'entend. Et c'est ce qu'on a vu à la lumière de ces deux versets. Et là, ouvre ton cœur à ton Seigneur. Parle avec Allah, expose-lui tes souhaits, tes attentes. Mais parle-lui également de tes craintes, de tes angoisses. Mentionne le nom de celui qui te harcèle. Mentionne le nom de celui qui te fait du mal. Parle-lui de cette personne qui t'a causé des problèmes, et ainsi de suite. C'est le moment où on ouvre son cœur avec notre Seigneur et avec une... Mais là, ça demande des qualités de foi qu'Allah nous l'accorde. Une conviction inébranlable qu'Allah m'entend. Et oui, il m'entend, il est as-sami'. Allah me voit, oui, il me voit, Allah est al-basir. Allah sait, même ce que je n'arrive pas à faire remonter, à exprimer, je dois être conscient qu'Allah en est conscient. Allah, il connaît. Parce qu'Allah est, innahu alimum bidatis sudur, celui qui connaît ce qu'il y a dans les poitrines. Voilà la qualité des doigts du croyant. En commentaire, les savants expliquent quelles sont les conditions que je dois ramener dans mes invocations pour que ça prenne de l'ampleur. Réaliser qu'Allah est proche de moi quand je lève les mains. Quand je lève les mains, fa'inni qarib. Allah est proche. C'est-à-dire quand je lève les mains, je dois être conscient qu'Allah m'écoute tout de suite. Et c'est une écoute qui est personnalisée. Et le doua que tu fais à Quwwatul Islam, à Itikaf, à l'étage, est le même que celui qui fait devant Maqam Ibrahim à Mecca. Et je pèse mes mots, il n'y a aucune exagération. Même si là-bas la prière vaut plus, sans le moindre doute. Mais l'écoute divine, elle est la même, c'est la promesse d'Allah, fa'inni qarib. Et si on voulait rentrer dans beaucoup de détails, mais on se perdra en détails, si on analyse la structure de la phrase, c'est magnifique. Quand Allah dit fa'inni qarib, Allah dit que je suis proche, les savants disent que c'est une phrase nominale, pas de verbe. Alors que la question était posée avec une phrase verbale, c'est l'enchaînement, c'est figure de style en arabe, pour montrer comment c'est rapide. Tout de suite, Allah t'écoute. Donc, prise de conscience, je lève mes mains, la connexion est établie avec Allah Azza wa Jal. Donc là, du coup, on fait qadar, comme on dit, on comprend, on se dit que waouh, c'est quand même important, et c'est une audience privée avec mon Seigneur. Et quand tu demandes doua, Allah ne distingue pas l'homme pieux du pécheur. C'est pas parce que tu traînes des casseroles derrière toi, des péchés, des kuntia, même plus de casseroles. C'est pas parce que tu as un passif. Na'oudhu billah. Même si, na'oudhu billah, dans ta jeunesse, tu as accompli l'adultère, même si tu as volé, même si tu as détourné de l'argent. Je dis des péchés graves, là. C'est vraiment qu'on voit que, quel que soit mon état spirituel, la promesse d'Allah est la même. Personne ne doit développer de complexe, d'infériorité par rapport à un autre. Moi, j'aime pas, moi, quand des gens viennent dire, Moulissab, ah, au fait, doit pour moi, on doit l'accepter. Au nom de quoi? Qui te dit? Qui te dit que je n'ai pas plus de péché que toi? Je dis, mais ah, où c'est un fundi? Oui, mais peut-être un peu plus de connaissances. Mais plus de connaissances égale plus de devoirs. Plus d'exigences dans les comptes. Celui qui connaît n'est pas comme celui qui ne connaît pas. Donc, mon Simon Caril au feu, frérot, il n'a pas été dit que c'est à chaque croyant est en droit. C'est un droit de chaque croyant de lever les mains et il obtient une audience privée de la part d'Allah Azza wa Jal. Donc, j'ai envie de dire, lâchez-vous, se lâcher. Devant les gens, ne se plaint pas. C'est presque humiliant d'aller voir quelqu'un qui dit « Ouais, j'ai tel problème, il m'a fait ça. » À un moment donné, les gens disent « Écoute, essaie de gérer ta vie. » On peut se confier à quelqu'un une fois. Mais quand ça devient répétitif, il faut aller voir un psychologue. Il faut payer 50 euros la séance. Mais il s'en fout de ta vie. Il a juste pour prendre tes sous. Et il t'apporte. Il a des compétences. Il va te donner les éléments de réponse. Mais il n'y a pas de lien du cœur. Il y a un lien plus de poche. D'accord ? Je veux dire qu'un être humain ne peut pas accepter que quelqu'un vienne lui voir 3 fois, 4 fois par jour pour lui parler. Voilà, maintenant j'ai tel problème. Maintenant j'ai tel problème. Mon Dieu va dire que non, mais moi aussi j'ai ma vie. Donc chacun y gère. Mais devant ton Seigneur, vas-y, lâche-toi. Parce que ce que tu es en train de vivre là, comme difficulté, c'est Allah qui a créé la situation. Et la solution se trouve auprès de qui ? Ben, de celui qui a créé la situation. Ton problème de santé, ça vient d'Allah. Il y a le mécanisme, il y a la médecine et tout, mais c'est Allah qui décide d'envoyer la maladie. Et ash-shifa biyadillah, le remède, la santé est dans les mains d'Allah Azza wa Jalla. Donc, ikhwani akhawati fillah, on doit monter de niveau dans nos doigts, arriver à une prise de conscience du dialogue et de l'écoute de notre Seigneur. Et là, franchement, il faut y aller. Et quand on a cet état d'esprit, on se rend compte que 10 minutes de doigt n'est pas assez. Parce que, t'es un problème, hein? Mais tu ne connais pas moi qui t'ai guéri, dis tout. Et Allah est au courant, et Allah t'entend, et c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Quand on fait dua, on doit avoir une bonne pensée. Husnu dhanni billah. Quand le hadith Prophète dit que c'est un hadith qudsi, Allah dit ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idha da'ani. Hadith Imam Ahmad. J'agis avec mon serviteur qui complète selon l'opinion qu'il se fait de moi. C'est pas qu'il a de moi, qu'il se fait de moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quand je fais dua, je suis persuadé qu'Allah m'entend et qu'il est clément, généreux, il va m'accepter, il va m'accorder, il ne va pas me priver, il ne va pas me laisser de la souffrance, Allah va t'accorder. Et dans d'autres hadiths, je n'ai pas noté, dit qu'Allah n'écoute pas ou ne prend pas considération d'un qalbun rafil, d'un cœur insouciant. Quelqu'un qui fait doigt mais qui pense à autre chose. Tu peux ramener les doigts, même le sayyid de l'istighfar. Le meilleur doigt que le prophète nous enseigne pour l'istighfar, c'est très long, ça fait 5 lignes. C'est compliqué, il faut le mémoriser, c'est plus long qu'une sourate, c'est dur. Mais même ce doigt qui est puissant, ça c'est le bazooka de l'istighfar. Ça passe, ça détruit tout, bidnillah. Mais si tu le lis sans même y penser, sans comprendre, sans réfléchir, c'est pas le but. Le but, c'est pas de produire des phrases, c'est que le cœur regrette et s'oriente vers Allah. On a besoin de ramener des qualités intérieures. On n'a pas besoin de faire beaucoup plus de choses. Ce qu'on fait, c'est déjà bien. Maintenant, on essaie de parfaire nos acquis. Qu'Allah nous accepte. Et donc, wa ana ma'ahu idha da'ani, et je suis, là encore une promesse d'Allah, je suis avec lui quand il m'invoque. C'est-à-dire, quand je fais dua, Allah promet qu'il est avec toi. Quand je fais dua, je dois avoir cette conviction que mes duas sont toujours écoutés et acceptés par Allah. Mais la façon d'être accepté va être différente d'une situation à l'autre et d'une personne à l'autre. C'est-à-dire, il n'y a pas un doua qui est prononcé et qui s'évapore de la nature. Vous savez que la parole, c'est des vibrations. Il a été prouvé scientifiquement que ces vibrations, on les retrouve jusqu'à je ne sais pas combien de mètres d'altitude, les vibrations dans l'air. Bon, ça c'est des thèses, hein, mais ce n'est pas ça que Allah n'attend pas que ça arrive à lui comme ça. Tu formules, Allah connaît ce qu'il y a dans ton cœur, d'accord ? Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un croyant qui demande à Allah quelque chose sans qu'il reçoit en retour, sans qu'il reçoit un retour pour cette demande. Même si c'est un doua que tu fais depuis 18 ans. Et le prophète alayhi salat dit donc ma min muslimin yad'u, il n'y a pas un croyant qui fait doua laysa bi ithmin wala bi qati'ati rahmin. Bref, on va aller vers la traduction. Il demande des doigts qui sont profitables sans qu'Allah ne lui accorde une de ces 3 choses. Imma an yu'ajjila lahu da'watahu, soit Allah décide de t'exaucer. Par exemple, Mouliam Zé fait doua, ya Allah, accorde un mari pieux à ma fille Fazila. Allah exauce son doua, 25e, il téléphone, papa, mashallah, il a une demande, il appelle Abdullah ou il appelle Ishaq, il a, mashallah, Allah, 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 il fait Instagram, il fait comment ça, il fait FaceTime, il voit que c'est maman, mashallah, il y a Nour sur son visage, et ça se concrétise. Ça s'appelle istijaba. Allah t'accorde ce que tu demandes. Le frère va passer son permis le lendemain, il demande doua, Allah lui accorde ce qu'il a demandé, il l'obtient, khalas. In the pocket, fil jaybi. Des fois, Allah décide de ne pas t'accorder ce que tu demandes exactement. Pourquoi? Hikmah. Allah est hakim, Allah est sage. Allah sait que ce n'était pas le moment. C'est une situation qui n'est pas favorable pour toi pour accueillir ce bienfait. Et c'est peut-être pour toi, mais plus tard. Maintenant, ce n'est pas adapté. Et Allah est là pour comprendre les décisions d'Allah. Il faut connaître les noms d'Allah. Allah est hakim, il est sage. Allah est également latif. Allah est bienveillant. Allahu latifum bi'ibadi. Et la bienveillance d'Allah, c'est qu'Allah connaît chaque individu personnellement. Il y a combien d'habitants en ce moment? On va dire 8 milliards à peu près. Allah connaît les 8 milliards. Allah connaît la population qui était là il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a, subhanallah, 9 siècles. Allah connaît chacune de ses créatures parce que c'est Rabbil Alamin. Et Allah écrit ton histoire de A à Z. Et donc Allah prédestine pour le croyant ce qui est le meilleur pour lui. Des fois ce sont des choses que tu aimes, asa, et des fois ce sont des choses que tu n'aimes pas. Mais Allah dit dans le Coran, asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Des fois vous n'aimez pas, mais c'est mieux pour vous. Asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Et des fois vous souhaitez quelque chose, vous aimez, mais ce n'est pas une bonne chose. Donc Allah ne vous l'accorde pas. Et donc cette conviction que Allah exauce, mais à sa façon. Je reprends, soit Allah te le donne, soit il ne te le donne pas pour les raisons qu'on a citées, d'autres qu'Allah seul le sait. Et yaddakhiraha lakum lahu fil akhira. Allah te garde ce doua et le transforme en récompense le jour de Qiyamah. Il y a que le mu'min, le jour de Qiyamah, vous savez, quand ce jour, l'atome, un iota, un grain de sable ou ce que vous voulez de bonne action, un subhanallah, ça vaudra pas de l'or mais plus le jour de Qiyama. Parce que chaque bonne action dans la balance, ça va influencer sur ton taqdir, sur ton devenir. Vous imaginez le soleil sur les têtes, les gens ont vu le Jahannam. Et il voit des gens qui sont en train d'entrer dans le Jannah. Afwaja, afwaja. On est dans le Mahshar, Imam Al-Yamzi qui rentre dans le Jannah. On voit Toto Daoud Omarji qui est déjà dans le Jannah. Allahumma waffiqhu, Allah razuqhu al-firdaws al-a'la min al-Jannah. On voit son fils Abdurrahman qui est en train d'entrer. On voit Youssouf le beau Al-Jamil qui est en train d'entrer. Et moi je suis là. Rien n'était décidé pour moi encore. Et j'angoisse. Et je vois mes actions, mes livrets qui me sont présentés, et je me rends compte que il y a beaucoup de péchés que j'accomplis quand j'avais 14 ans, 16 ans, 22 ans, 31 ans. Mais comment je suis passé à côté de tout ça? Comment est-ce possible que j'ai pas pu demander pardon à Allah pour tout ça? Et là, l'être humain angoisse. Et les mauvaises actions sont mises de le côté gauche de la balance. Et ça me fait peur. Et lorsque les bonnes actions sont mises de le côté droit, ça me rassure. Et j'essaie, je vois, il faut que le côté droit pèse plus lourd. Et là, une hasana, une unité de bonne action, ça a son pesant et son importance. Parce que tu veux rejoindre ceux qui viennent d'entrer dans le Jannah avant toi. Et là, le croyant voit des montagnes de bonnes actions qui sont installées dans le côté droit de la balance. Et par honnêteté, il dit, ya Allah, ces actions ne m'appartiennent pas. Parce que il n'a pas fait ces actions-là. Et le jour de Qiyamah, ça c'est une autre histoire. Allah te donne la possibilité de connaître toute ta vie. Quand tu vois le livret d'action, tu te souviens de tout ce que tu as fait, de bien mais également de mal. Et on lui répondra que ce sont les doigts de ce dunya. Les doigts que tu demandais, les invocations qui n'ont pas été exaucées, mais comme tu le souhaitais, Allah les a gardés et les a transformés en récompenses. Et voilà l'équivalent. Et là, le croyant aurait souhaité que tous ces doigts de ce dunya seraient comme ça. Parce qu'il est en train d'obtenir le Jannah, par des doigts qui n'ont pas été exaucés de ce monde. Et là, le croyant réalise que c'était une action extraordinaire. Mais c'est trop tard pour maintenant de revenir en arrière, de faire de don. Ikhwan, faisons doigt et gardons espoir. Soit Allah te le donne, soit Allah te le garde dans l'au-delà. Ou alors, troisième cas de figure, ou alors Allah te protège contre des choses qui sont mauvaises. Et là, il faudrait ouvrir un grand chapitre qu'on ne peut pas se permettre d'ouvrir. C'est le dertir, le destin. Tu as ton destin annuel. On a le destin de l'humanité, on a le destin personnel. Quand tu es dans le ventre de ta maman, à 40 jours, et ainsi de suite, tu as le destin annuel, c'est Laylatul Qadr Khayr min al-Fishar, d'une nuit de destin d'une année à l'autre, et ainsi de suite. Il y a plusieurs catégories de taqdir. Mais quand tu as le destin annuel, justement, il y a ce qui va t'arriver cette année. Et des fois, il y a des difficultés qui doivent se produire, des épreuves. Et les savants expliquent que parmi les actions qui permettent aux croyants de voir les épreuves de son taqdir éloignées ou supprimées, il y a l'aumône, ça on le savait, donner dans le chemin d'Allah, ça éloigne les difficultés, mais il y a également les doigts. Soit tu demandes protection contre les problèmes contagieux et Allah te protège de quelque chose qui t'était prédestiné, ou alors tout simplement un doigt qui n'a pas été exaucé, en échange, Allah ne te doit rien. Mais ce qu'Allah te donne, ça émane de sa générosité, c'est qu'Allah te protège contre quelque chose qui t'était prédestiné. Donc mes chers frères et sœurs, on est toujours gagnant quand on fait doigt. Et même si tu ne vois pas le résultat de tes doigts de ce dunya, sache que ce n'est que du bien pour toi. Maintenant, efforce-toi de faire ce doigt avec présence de cœur, avec concentration, avec sérieux et prise de conscience que tu es en train de frapper à la porte du Seigneur des mondes, celui qui détient, celui dont la décision c'est innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah demande, Allah exige et la chose se produit. Et quatrième règle dans le doigt, la tasta'jil. Ça veut dire quoi la tasta'jil? Ne sois pas pressé. Et ne dis jamais, ce qu'il ne faut jamais dire, c'est que da'outu, falam mustajabli. Tout le temps, il demande doigt là, tout le temps, il demande jamais il ne gagne pas. C'est là que les doigts sont perceptés, qu'Allah nous protège. Quand un croyant, il dit verbalement que j'ai déjà demandé à Allah, ça, il ne me donne pas, il ne m'accepte pas, là, c'est plus bon. Tant que le croyant demande, il continue à demander et à croire à Allah, à son acceptation, même s'il ne voit pas les résultats, il continue à obtenir les récompenses des doigts. Mais il ne faut jamais être pressé et désespéré des invocations. Donc ça c'est la quatrième action. Mouniamzi, on peut se permettre encore 5 minutes? Est-ce que quelqu'un a prévu de manger un biryani ou un repas là dans un instant, non? Madaba? Non. Khalas. Donc on se permet encore 5-10 minutes, Inch'Allah. Cinquième action que je dois continuer à faire jusqu'à la fin du Ramadan avec fermeté, mais avec qualité. Là aussi, on cite l'action, mais on cite le plus-value. Comment on monte de grade dans cette action et avec l'intention d'istiqama, de fermeté, rester ferme dans cette action, même après le mois de Ramadan, en demandant à Allah l'istiqama, c'est demander pardon. Tawba. Mais il y a celui qui dit astaghfirullah, 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 astaghfirullah. D'accord ? Vous voyez, dans les pays arabes, j'en ai pas amené là, je vous aurais montré. Vous voyez les tasbihs que vous avez là, chapelet comme on dit, ou sabaha, peu importe le nom. Il y a des magasins spéciaux dédiés à la vente de sabaha, de tasbihs, mais avec des pierres précieuses. Mais c'est d'une beauté, ça coûte très cher. J'en ai un dans la voiture. Mais c'est vraiment, c'est des tasbihs qui sont magnifiques. Très beau. En fait, c'est plus... ça sent bon, hein? Il y a quelqu'un qui cuisine vraiment. Mashallah, on va rester jusqu'au futur. Alors. Ça, c'est pour les mu'taqifines, ça. Il y a toujours l'ikram du quartier. Hein. Et je disais donc, ils vendent, c'est plus des bijoux qu'autre chose. Et dans la tenue, on va dire, un peu traditionnelle du jeune émirati, du jeune saoudien, du jeune qatari, d'accord, c'est le thawb, enfin bref, quoi, vous connaissez la panoplie avec le châle qui est bien repassé, bien dressé, bien pointu là, et le fameux tasbih qui tourne, comme un lasso. Et c'est fait de pierre précieuse, c'est très beau, ça fait un style, ça arrache, d'accord. Mais la personne qui fait tourner le tasbih, qui dit « astaghfirullah, 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 astaghfirullah », les savants disent que « hada l'istighfar » yahtaju ila istighfar. Ce istighfar-là nécessite lui-même un istighfar. Parce que tu ne peux pas prononcer le nom d'Allah le cœur vide. C'est un béadab. C'est un manque de respect envers ton Seigneur que de lui dire astaghfirullah sans y penser. C'est comme si tu banalises ton péché. C'est-à-dire que chaque zikr et la demande d'istighfar de façon particulière, ça doit venir du cœur. Et le sentiment principal qui doit émerger de ta demande d'istighfar, ce sont les regrets, les remords, la honte. Tu te présentes devant Allah, le Seigneur des mondes, celui devant qui Jibril, Mikaïl, Israfil se prosternent. Le maître du jour de l'attribution, Malik Yawmiddin. Si vous voulez connaître Allah, étudiez Tafsir al-Fatiha, c'est puissant. Ce qu'on lit tout le temps dans la salat, c'est tout simplement magnifique et puissant. Ça te donne une idée, tu comprends qui est Allah d'une certaine façon. C'est pas besoin d'aller très loin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Étudiez les sept versets d'Al-Fatiha avec le Tafsir. Je reviens. Ce qui doit habiter mon cœur quand je demande pardon, c'est la honte. J'ai désobéi délibérément à mon Seigneur. Donc, quand on demande tawba, ikhwani, akhawati fillah, il doit y avoir hudurul qalbi. Le cœur doit être là. Le cœur doit être rempli de remords. Et on expliquait ça au groupe de le cercle de discussion des jeunes hier, quand on demandait comment vous demandez doua, istighfar, ainsi de suite. Je leur expliquais que vous savez, si vous avez commis dans votre jeunesse, et j'ai fait exprès de taper très dur, hein, des péchés graves, que peut-être certains n'ont jamais accomplis, même si dans ta jeunesse tu as accompli l'adultère, même si tu es parti vers des péchés plus graves encore, plus graves que l'adultère, que je ne vais pas citer, le pardon d'Allah peut s'obtenir en quelques secondes. Il n'y a pas besoin de prendre un billet, d'aller devant la Kaaba ou d'aller au Hajj Arafat. Oui, si tu peux le faire, alhamdulillah, khair wa ni'ma. Mais il n'y a pas besoin, Allah n'a pas besoin d'un lieu pour t'accepter. Allah a besoin d'un cœur qui est sincère et pur. Quand tu es en prosternation dans le dernier tiers de la nuit, dans le mois de Ramadan, dans une nuit impaire, avec présence de cœur, et tu penses au zina que tu as fait quand tu avais 17 ans, 18 ans, peu importe, et que tu demandes avec les trois conditions qui sont réunies. Premièrement, regret, remords. Deuxièmement, une demande sincère qui vient du cœur et que tu pleures et tu reconnais la grandeur d'Allah et la gravité de tes fautes. Et troisièmement, al-azmi ala admi al-aoud, la promesse de ne plus jamais recommencer. C'est terminé. Et que tu prends il y a eu une coupure dans le micro, c'est bon, on a remplacé les piles. On disait donc que le tawbatun nasuha, c'est, et troisième condition, cette fermeté que jamais plus je vais recommencer le péché, et tu prends tes précautions. Tu fais en sorte de ne plus recommencer, mais tu gères ta vie pour que si ton péché, c'est par rapport à la fréquentation de tel groupe de personnes, comme ce groupe de jeunes au fond de la masjid qui est en train de parler pendant le bayan, si le problème c'est la fréquentation de certaines personnes, fais en sorte de changer de fréquentation. On vous a eu là, d'accord, ils sont figés. C'est comme si l'ange de la mort était venu. Ça mène les bons poussettes. Prends des précautions, change de groupe d'amis. Change de quartier. Si le problème c'est qu'on habite la rocade, j'ai rien contre la rocade. Hein. Et si c'est là-bas qu'il y a tous les crimes de l'humanité, ben, déménage. Excusez-moi pour ceux qui habitent la rocade, d'accord. Ou alors tu habites le quartier Cowboy aux portes, on connaît les quartiers chauds de la Réunion. Change de fréquentation. Change de fréquentation, fais en sorte de ne plus être avec les gens qui t'amènent vers les péchés. Si tu réunis les trois conditions et que dans ton cœur, Allah a décelé cette sincérité, que vraiment tu regrettes et que tu as fermé les portes au péché, le plus grave des péchés peut être pardonné par Allah. Les plus graves des péchés et une vie de péché. Il y a un hadith qui, à mon sens, met en avant une métaphore. Et vous savez, les métaphores, les paraboles, il y a des exemples que le prophète alayhi salat wa salam utilisait, c'était percutant parce que c'était ce qu'Allah mettait dans son cœur. Wa man yantiqu anil hawa, c'est qu'Allah lui disait Yabna Adam, hadith qudsi, écoutez le hadith avec attention. Innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ma kana fik wa law laqitani mil al ard khataya laqituka mil al ard maghfira. On va dire en français pour aller plus vite le sens, même parce qu'on a largement dépassé le temps. Allah Rabbul Izzah s'adresse à l'être humain, yabni Adam, au fils de Adam, et là nous sommes tous concernés. Yabni Adam, tant que tu m'invoques et warajoutani. Et là, si on devait rentrer dans les détails, il y a da'outani et rajoutani. Nous, en général, on fait quoi? On fait dua, mais il manque de raja. Raja, c'est qui traduit les hein? L'espoir. Raja, c'est oui, c'est celui qui vend des costumes en ville. Oui, également. C'est l'espoir. Da'outani wa rajoutani. Il faut les deux. Quand tu fais dua, il faut qu'il y ait de l'espoir dans tes doigts. Autrement, ce n'est pas un doigt complet. Quand tu m'invoques avec espoir, je t'accorde mon pardon, peu importe ce que tu as avec toi. Peu importe. Et là c'est le message général. Et là, il y a les détails. Allah Rabbil Azza dit, walau laqitani. Et même si tu me rencontres avec mil al-ardi khataya, avec tout ce que la surface de la terre peut contenir en péché, vous voyez la puissance de la métaphore, il ne peut pas y avoir plus fort. Si tu viens à moi avec l'espace de toute cette terre remplie de péchés, laqituka mil al-ardi maghfira. Moi, je t'accepte avec l'espace de cette terre remplie de pardon et de clémence et de maghfira. Vous voyez l'opposition de métaphore, c'est tout simplement puissant. Dire qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de quantité minimum, il n'y a pas un quota de péchés ou certains péchés qui sont pardonnés par Allah. À part le shirk, bien sûr, Allah Rabbul Izzah. Et il y a une deuxième métaphore. Maintenant, c'était la surface de la terre. Vous voyez la puissance du hadith. Walau balagat khatayak anan as-sama. Si tes péchés atteignaient, ils allaient jusqu'aux cimes des cieux. Si tes péchés, alors je trouve la meilleure traduction, si tes péchés étaient tels qu'ils atteignaient les nuages dans les cieux. Ah, c'est ça. Anan as-sama, ça arrivait jusqu'aux nuages dans les cieux. Et tu me demandes pardon, je t'accorde également mon pardon. Ça, c'est hadith de l'espoir. Être conscient, avoir la conviction qu'Allah est capable de pardonner. Permettez-moi de vous donner, pour clôturer, on avait d'autres points, mais je pense qu'on va s'arrêter à là, deux enseignements qui sont bénéfiques de la façon que le prophète alayhi salat wa salam priait. Ça fait un lien entre le qiyamul layl et la demande de pardon. Dans les doigts, dans ses prosternations, le prophète de la prière de la nuit, le prophète alayhi salat wa salam lisait un doigt. Alors, je sais qu'on est à un âge, à part les enfants, les élèves qui sont là, normalement, quand on dépasse 30 ans, on ne peut plus mémoriser, c'est difficile. Très dur, le cerveau n'accepte plus des nouvelles informations à mémoriser mot pour mot, sauf si on est encore dans le move, machallah. Mais sur ce coup-là, il faut faire un effort. Moi-même, quand je l'ai appris, je l'ai mémorisé et je le connais maintenant. Et je le mets en pratique, bi-idhnillah, bi-fadlillah, en espérant qu'Allah accepte. Le prophète dans ses sujouds lisait « Allahumma ghfir li dhanbi kullahu »« Oh Allah, pardonne-moi tous mes péchés » Diqqahu wa jillahu, les plus petits, mais également les plus grands, les plus graves. Awwalahu wa akhirahu, les premiers que j'accomplis, et même les plus récents. Wa alaniyatahu wa sirrahu, ceux qui ont été accomplis ouvertement et ceux qui étaient accomplis dans le secret, sans que personne ne le sache. Et on sait bien que les péchés cachés, en général, sont les plus graves. Qu'on ne veut pas que les gens voient. Ce hadith, ce doua est tout simplement magnifique parce que le prophète a enseigné. Est-ce que le prophète avait autant de péchés? Il n'avait pas le moindre péché. Il nous l'a enseigné pour que nous le lisons. C'est pour nous. Le mu'min le lit dans le tahajjud. Tiens, les tiers de la nuit, demande Ramadan, de nuit un peu. Allah Akbar. Tu lis ça dans ton sujoud, dans ton tahajjud. Imagine le pardon d'Allah Rabbul Izzah. Ça, c'est un premier enseignement pratique. Ce doua, je pourrais vous l'envoyer. On l'a déjà rédigé sur un support avec des accents et tout. Et il manque juste de la traduction aussi. Et donc, c'est très simple. Ça fait partie des actions que je peux lire dans mes prosternations de tahajjud pour obtenir le pardon divin. Et deuxièmement, et ça c'est beaucoup plus facile, entre les deux sujoud, entre les deux prosternations, il y a quoi comme action? La position assise. En général, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit, Allahu Akbar, et on retourne sujoud. Le prophète alayhi salat wa salam, dans la position assise entre les deux sujoud, je ne parle pas de tahiyyat, hein, la position assise entre les deux prosternations, il disait, il y a différentes formules, il y a Rabbi Ghfirli trois fois, « Oh Allah, pardonne-moi. » Ou également « Allah, maghfirli. »« Oh Allah, accorde-moi ton pardon. »« Warhamni. » »« Aie pitié de moi. »« Wahdini. » »« Oh Allah, guide-moi. »« Warzuqni. » »« Accorde-moi ma subsistance. » Et il y a d'autres termes encore. Mais les savants disent qu'imagine que tu fais ton tahajjud, ta prière de la nuit, et que donc tu embellis ta prière de la nuit avec ces enseignements prophétiques en lisant ces doigts de pardon de le soujoud. Et quand tu t'assois après un soujoud, et le doigt de pardon, tu peux le lire 10 fois, 15 fois, jusqu'à ce que ton cœur se met à vibrer et à trembler de crainte et de honte d'être devant Allah et d'avoir accompli autant de péchés et d'espoir. Et que maintenant tu t'assois, tu lis ce doigt de pardon, de guider, de clémence, et ensuite, mashallah, tu replonges, tu retournes le sujet, tu lui redemandes pardon. Comment cette salat, elle prend de l'ampleur? C'est ce que je veux, c'est ce qu'on doit essayer d'atteindre, la qualité de l'a'mal, pas la reproduction de beaucoup de bonnes actions. Voilà, ça me faisait combien dans la carte de Tahajjud? 12. Mais ce n'est pas là l'objectif. Si tu arrives à faire 12, mashallah. Hier, j'écoutais entre deux rakats, j'écoutais un audio, il y a un cher qui disait, on lui a posé la même question, mais je dois faire quoi en priorité? Namaz, lecture du Coran, dua. Il dit, fais ce que ton cœur te demande de faire. Là où ton cœur est à l'aise, vas-y. Il y a des gens qui trouvent l'épanouissement dans les prosternations. Ils doivent faire les 12 rakats. Il y a des gens qui, lorsqu'ils lisent le Coran dans le dernier tiers de la nuit, leur cœur s'emballe. Mais lis le Coran. Il y a des gens qui trouvent le lien avec Allah dans les du'as. Fais du'as. Il y en a qui ont besoin du istighfar. Fais ce qui te permet de trouver le lien le plus puissant et le plus profond avec ton Seigneur, mais que ton cœur soit présent et qu'Allah Rabbul Izzah nous accorde cette qualité. Il restait un dernier, si vous me permettez, et ça va être le mot de clôture. Dans ces derniers jours, sois avide d'aumône. Paradoxal de dire ça, hein? L'avidité, c'est pour aller bien. Non, sois avide de sadaqa. Recherche la moindre porte de sadaqa, d'aumône, prends-la. Sachant que le prophète alayhi salam était l'homme le plus généreux. Et durant le mois béni, il était encore plus généreux. La générosité du prophète a tenu son paroxysme durant le mois de Ramadan. Donc, donne dans le chemin d'Allah. Et on ne le dira jamais assez. Il n'y a pas besoin d'être riche pour donner. Et quand on donne, il n'a pas été dit que pour donner, c'est minimum 50 euros. C'est pas comme dans vos, comment ça, vos bachouli, appelle ben, hein, minimum 50 euros. Non. 10 euros, 5 euros. Et une fois, on a fait tarrib avec les élèves à la madrasa, un jeune homme. On avait expliqué à la madrasa une fois, avec les élèves, voilà, on a le projet de construction de la madrasa, donnez, faites ce que vous pouvez, dites à vos parents, mais vous aussi, si vous avez donné. Et il y a une fille, je pense qu'elle est présente, elle fait chivre avec nous. Elle est revenue le lendemain, elle a dit, oui, ça c'est mes économies. Elle a amené 20 euros. Elle n'avait même pas d'enveloppe, elle a mis dans une feuille à 4, elle a plié. Elle dit, ça c'est ce que j'ai à la maison. Mais ce 20 euros-là, ce billet bleu-là, auprès d'Allah, ça a une valeur inestimable. Parce que ça a été donné avec cœur. C'est peut-être plus important que quelqu'un qui donne 2000 ou 10 000, alors qu'il a beaucoup plus de son livret de compte. Bien sûr, si on donne plus, c'est encore mieux. C'est profitable pour le projet, bien sûr. C'est-à-dire que fais-le avec cœur. Il n'y a pas besoin d'être immensément riche. Il ne faut pas penser que le monde, c'est l'action des riches. Là, wallah, toute personne est en droit d'obtenir sa récompense et sa part de monde en donnant dans le chemin d'Allah. Donc, on profite de ces derniers jours de Ramadan. On est à la recherche de le monde. Et de nos jours, machin, il y a tellement de projets qui sont en cours, qu'on peut donner à Saint-Denis, à Saint-Pierre, à Mayotte, aux Comores, on peut creuser des puits en Afrique, on peut faire tellement de choses, des colis alimentaires, il y en a qui vont à Mafak, il y en a qui vont partout, Inch'Allah. Les babou al-khayrat sont grandes ouvertes. Mais permettez-moi, sachant qu'on est dans ce quartier, et que vous êtes habitant de ce quartier, et que vos enfants fréquentent notre madrasa, et que vos petits-enfants vont fréquenter notre madrasa, et que pour beaucoup, vous avez grandi ici même, nos enfants à la cour, comme il dit. En ce moment, pour nous, la priorité, c'est de donner pour la future madrasa, qui va accueillir, Inch'Allah, quantité d'élèves, et qui sera utile sur Dieu seul sait combien de générations. Et Allah seul sait comment on a besoin de ta'lim à notre époque. Nos enfants, c'est la fraîcheur de nos yeux, oui ou non? Il n'y a rien de plus important que les enfants. Il n'y a rien de plus important que de voir nos enfants réussir dans la vie. Et la réussite, c'est qu'ils ont le dîn de leur vie, et ils réussissent, leurs études, deviennent médecins, avocats, peu importe le métier, mais qu'il y ait Allah dans leur cœur, et qu'ils grandissent avec la foi, avec aqid, avec tawhid, et qu'ils restent sur le droit chemin. Ça, c'est la fraîcheur des yeux des parents, et la structure qui est en train d'être construite, subhanallah, c'est la priorité. Même si ce n'était pas l'intention première, je souhaite que chaque personne présente qui a la possibilité de donner quelque chose, là, même si tu dis oui, il me l'a donné hier, tu l'as donné hier, mais aujourd'hui c'est un autre jour. Et chaque matin, il y a des anges qui font doigt, oh Allah, accorde à celui qui donne de la bénédiction. On essaie, les dames de leur côté, les messieurs ici, on se dit que ça c'est ma sadaqa, peut-être par ça, ma nuit du destin est validée. Peut-être mes amal de yassan sont validés, on donne. On se dit que ça c'est pas le din d'Allah, azza wa jalla. Donc voilà, ikhwani khawati fillah, si on devait résumer nos points de fermeté jusqu'à la fin du ramadan et se projeter l'après ramadan, on reste ferme sur le 5 salat, sur la prière de la nuit, sur le jeûne et les jeûnes du lundi, jeudi, 13, 14, 15 du mois également, doua avec cœur, demande de pardon avec cœur également, et beaucoup de demandes durant toute notre vie avec espoir qu'Allah nous accepte. Et plus on va accomplir ces actions, la piété va s'installer dans notre cœur, et c'est le but du mois béni. La'allakum tattaqoun, qu'Allah Rabbul Izza nous accepte, accepte ce majlis, accepte les paroles qui ont été prononcées, que ces paroles pénètrent réellement nos cœurs et qu'on arrive à les convertir en amal, en pratique, et qu'Allah nous permet surtout d'améliorer notre relation avec lui à travers les actions du quotidien, qu'Allah nous permet maintenant de monter en niveau de concentration, de dévotion, d'amour d'Allah, de crainte d'Allah, de présence de cœur, d'espoir, de rétribution, pour que lorsque j'accomplis ces bonnes œuvres, je le fais vraiment avec présence de cœur, et qu'Allah me permet de trouver la douceur de la foi et la fermeté dans les bonnes œuvres, et nous protège des وساوس الشيطان وتنتاسيون دو ديابو ما توفيق الا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا.